Bonjour.
Alors, juste quelques mots de présentation. Je me présente, je m'appelle Féfé. Mon épouse s'appelle Noufi. Nous avons deux enfants, Azalé et Daniel. Azalé, 3 ans, et la deuxième a encore 1 an. Et nous sommes très reconnaissants d'être parmi vous et de pouvoir prendre un temps pour lire la parole ensemble et écouter la parole. Nous, on vient de Lille. Et vraiment, c'est chouette de découvrir Saint-Quentin. Et avant de commencer, j'aimerais à nouveau vous inviter à prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Ta parole, c'est la vérité. Et elle nous révèle ta personne. Je te prie de nous parler, parle à nos cœurs, que chacun d'entre nous puisse en ressortir grandi. Seigneur, cette parole est vivante. Nous croyons. Agis par ton Esprit Saint, Seigneur, en nous, au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Amen. Alors, qui a fait cette expérience d'ouvrir une page web et puis ça bug? Ça bug. Vous ouvrez votre boîte mail et puis vous attendez 15 secondes, 30 secondes, 1 minute. Et quelle est votre réaction à ce moment-là? Quelle est notre attitude à ce moment-là? Ou qui a encore eu l'occasion d'appeler une administration, peut-être une banque ou la CAF ou d'autres choses, ou les impôts, oui. Et puis vous tombez sur cette, voilà, cette petite citation. Alors, votre temps d'attente est... Et 3 petits points, je vous laisse remplir le temps d'attente. Et ce sont là des situations voilà, de la vie quotidienne, assez simples. Mais qu'en est-il du coup lorsque on a des situations, par exemple professionnelles, où un collègue vous malmène? Qu'en est-il lorsque votre voisin se moque de votre foi? Les amis proches de vous en rigolent. Lorsque parfois votre témoignage, on dirait, ne porte pas de fruit. Encore, qu'en est-il lorsque vous apprenez une mauvaise nouvelle et que tout d'un coup vous vous rendez compte que ben, votre conjoint n'en a plus beaucoup à vivre? Quelle serait notre attitude? Et dans l'une ou l'autre de ces situations, et sans minimiser aucune de ces situations, Dieu a des exhortations pour nous, des encouragements, des pistes à suivre sur l'attitude à adopter pour nous aider à persévérer dans la foi. Et c'est pour ça que j'aimerais vous inviter à lire un passage dans Jacques. Je vous invite à prendre l'épître de Jacques, en Jacques chapitre 5, Jacques chapitre 5, les versets 7 à 11. Jacques chapitre 5, versets 7 à 11, et je lis. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Amen. Alors, tout le thème de notre passage porte sur la patience. 6 fois, le mot patience ou son dérivé revient dans notre passage. Et donc, le plan vient avec. Dans un premier point, on va regarder « Patientons avec espérance jusqu'à son retour. » Patientons avec espérance jusqu'à son retour. Et le deuxième point, c'est « Patientons avec persévérance comme nos prédécesseurs. » Et ici, Jacques, il est super sympa. C'est très simple, le discours qu'il nous donne. Il nous donne une affirmation, un argument pour le soutenir et la conclusion. Et donc, je vous invite à regarder le premier point. « Patientons avec espérance jusqu'à son retour. » Le verset 7. « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. » Ici, l'affirmation, elle est claire, il n'y a pas d'ambiguïté. « Soyez patients. » Alors, c'est quoi la patience ? La patience, c'est la constance, la persévérance à faire une chose, à poursuivre un dessein, malgré la lenteur des progrès, les obstacles, les peines, les dégoûts. Ça peut se définir aussi par la tranquillité, le calme, le sang-froid avec lequel on prend une situation et on attend ce qui tarde à venir ou à se faire. Et c'est une qualité chez une personne. Et vous attaquiez le sujet de la constance, et ça fait partie de la constance, la patience. Qualité qui est d'être d'humeur égale en toutes circonstances, même dans les circonstances difficiles. Et Jacques donne cette recommandation à ses frères et sœurs dans la foi. Alors mettez-vous un peu dans la peau de ces chrétiens du premier siècle. Vous êtes nouveau converti à Christ, le Messie, et tout le monde pense que votre croyance, c'est une secte. Les Juifs vous persécutent, les Romains vous persécutent à cause de votre foi, et dans l'adversité, votre leader, il vient et il dit « Soyez patient ». Comment est-ce que vous réagiriez par rapport à ça? Sincèrement, j'aurais du mal à écouter cette personne et je me révolterai. Mais il ajoute à ses propos un mot qui donne de l'espoir à ma situation. Qu'est-ce qu'il dit ? Jusqu'à. C'est-à-dire qu'il y a une limite. Il y a une limite à la situation endurée. Et il y a une raison légitime, une raison juste à supporter malgré les difficultés, une raison juste à patienter. Et laquelle ? C'est l'espérance dans notre Seigneur, l'espérance de son avènement. Jésus va revenir. Jésus va revenir. Et Jacques, il va doublement insister sur le retour du Seigneur pour encourager ses frères et sœurs. Encourager ses frères et sœurs à choisir de vivre la patience. Il y a un début à tout et il y a une fin à tout. Et dans ce monde, l'avènement du Seigneur, il met un terme à tous les défis de la vie chrétienne. Et l'apôtre Jean, il dit ceci en terminant le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21. « J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et vraies. » Alors, pour soutenir son affirmation, Jacques, il donne une image, une image qu'il prend en sandwich entre les affirmations du retour du Seigneur. Quelle est cette image ? C'est l'image d'un laboureur, d'un agriculteur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Alors cette image, c'est une image du domaine agricole. Et nous sommes peut-être pas très familiers avec ça, mais pour en comprendre le sens, si vous avez fait un peu de potager, ça va énormément vous aider. Le laboureur ou le cultivateur, il a semé durant la saison des semailles. Il a bossé et puis il attend les récoltes. Puis il adopte l'attitude de l'attente, de la patience jusqu'au moment favorable de la récolte. Et c'est quand? La tombée des pluies de la première et de l'arrière-saison. Alors c'est quand la première et l'arrière-saison? Un commentateur qui s'appelle John MacArthur dit ceci. En Israël, la pluie de la première saison tombe en octobre-novembre. Elle ramollit le sol et le rend propre au semail. La pluie de l'arrière-saison tombe en mars-avril, juste avant la récolte de printemps. Et ailleurs, dans la Bible, en Deutéronome 11-14, il dit que les pluies de la première saison, la première et de l'arrière-saison, évoquent des récoltes d'abondance en guise de bénédiction de la part de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette image de l'agriculteur? L'agriculteur, il a bossé. Ça a été dur. Mais il dépend de la terre et de la météo, des choses qu'il ne contrôle pas. Cependant, il sait avec certitude qu'il y aura une récolte dès que les pluies tomberont. Et c'est pour cette raison qu'il peut attendre. Son espérance est certaine. Et s'il n'avait pas d'espérance, il ne pourrait pas tenir. Et Jacques, il veut rappeler à son auditeur leur espérance. Et quelle est leur espérance? Quelle est cette espérance? L'avènement du Seigneur. Verset 8. Vous aussi, soyez patients. Affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Le Seigneur, il va revenir. Et n'est-ce pas ce qu'il dit dans Jean 14? Jean 14, versets 1 à 3. Je lis. Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Si Jésus n'allait pas revenir, il nous l'aurait dit. Mais il reviendra et ce retour est imminent pour bientôt. Et par conséquent, puisque cette espérance est certaine, que faire alors? Soyons patients, affermissons nos cœurs, fortifions-nous dans le Seigneur, dans sa parole, dans ses promesses, consolidons notre foi. Et continuons la marche à la suite de Jésus. L'impact individuel de l'espérance chrétienne, c'est la persévérance. Je patiente et je me fortifie et on continue. Alors, je nous pose la question aujourd'hui. En quoi est-ce que nous avons mis notre espérance? Un compte bancaire? Un boulot en CDI, plein de diplômes, une famille. Est-ce que c'est en Jésus que j'ai mis mon espoir? Et est-ce que c'est le Jésus Sauveur que la Bible présente? Est-ce que mon espérance en Jésus, si je l'ai reconnu comme mon Sauveur et Seigneur, impacte ma vie quotidienne, impacte mes choix, au point que je peux patienter lorsque mon voisin se moque de ma foi, mes collègues, mes amis, ne prennent pas au sérieux le message? Et en ce cas-là, est-ce que je peux patienter face aux personnes qui dénigrent mon engagement pour le Seigneur, que ce soit au boulot, que ce soit dans le sport, dans d'autres domaines? Est-ce que je peux manifester de la patience dans mon couple? Parce qu'il y a des difficultés à cause de nos propres péchés. Si nous, on ne voit pas de situation où on estime avoir besoin de patience, Jacques introduit un domaine où la patience est indispensable. Regardez, verset 9. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Si le retour du Seigneur nous donne d'être patients, cette patience doit se voir notamment au niveau des relations fraternelles, les uns les autres. Et qu'est-ce qu'il dit ici? Que faire? Ne pas se plaindre les uns des autres. Ne pas se plaindre. Alors ça, c'est un sport national en France. Exprimer son mécontentement, c'est naturel. C'est une deuxième nature en France. Mais si c'est intuitif et si c'est notre culture, on est appelé ici à aller contre cette culture. En l'occurrence, c'est envers les frères qu'il ne faut pas se plaindre. Et littéralement, il ne faut pas soupirer ou gémir à propos des frères et sœurs, sinon on s'expose au jugement, à la condamnation. Quel danger à ne pas manifester de la patience envers notre famille en Christ. Eh bien, on s'expose au jugement et le juge, il est à la porte. Et c'est une manière de parler pour évoquer que le retour du Seigneur annonce le jugement. C'est lui qui va juger. On espère en sa justice. C'est lui qui ramasse les copies. Et c'est une sévère mise en garde pour nous. Et au fait, pour Jacques, tout se vit à la lumière du retour du Seigneur. Et est-ce que je vis mon implication dans l'Église ou en dehors de l'Église, dans ma foi, à la lumière de ce retour de Jésus? En tout cas, à moins que mon espérance soit grande, à moins que notre espérance soit grande, on ne pourra pas tenir. On n'aura pas la capacité de patienter. Et ça me rappelle une situation quand j'étais étudiant en 2018 à l'IBG, l'Institut biblique de Genève, pour ceux qui ne savent pas. On était une promo et plusieurs des frères, des gars, ont décidé de faire un marathon. Alors, ils ont enchaîné les entraînements intensifs, pénibles, dans la pluie, sous la neige. Il y a eu des blessures. Il y a eu des difficultés. Mais ce qui les motivait, et clairement c'était pénible, hein, mais ce qui les motivait, ces gars-là, c'était de franchir la ligne d'arrivée. D'atteindre un objectif personnel, important. Alors l'image, elle a ses limites, bien sûr, comme toutes les images qui existent, mais... La finalité a rendu acceptables certaines situations difficiles. La finalité a rendu acceptable l'effort présent. Et l'objectif donnait du sens à ce qui était vécu au moment présent. Alors, dans la continuité de son exhortation, dans ce qu'il affirme, il rajoute encore d'autres éléments à l'appui pour bien soutenir ses frères et sœurs, bien les encourager à patienter. Et Jacques, il dit, regardez à vos prédécesseurs en guise de témoin. Donc le deuxième point, c'est patientons avec persévérance comme nos prédécesseurs. Il ne veut pas rester théorique, Jacques, et du coup, il fait appel à du concret. Regardez les versets 10 et 11. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Dans l'attente du retour de Jésus, il nous encourage à quoi? Eh bien, à imiter des modèles de foi. Lesquels? Les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Les prophètes, c'était des porte-paroles du Seigneur. Et je n'ai pas pris le temps de l'évoquer au début, mais Jacques, c'était un juif converti à Christ, et les prophètes dont il parle, ce sont les prophètes de l'Ancien Testament. Et en l'occurrence, sur quoi du coup devaient se calquer les chrétiens? Et en regardant ces prophètes, qu'est-ce qu'ils devaient imiter chez eux? Eh bien, leur fidélité et leur persévérance à obéir à Dieu malgré les épreuves, malgré les souffrances éprouvées. Et qui sont les exemples de prophètes qu'on pourrait citer, qu'on pourrait prendre? Vous en avez en tête?
Jérémie,
qui d'autre? Il y en a plein. Allez-y. D'autres prophètes que vous connaissez?
Amos.
Oui, Amos. Isaïe.
Abraham.
Oui, lui, il a tout lâché. Moïse, 40 ans berger, poursuivi. Et il y en a plein. Daniel, jeté dans la fosse aux lions. Oui.
Élie,
tout à fait. Poursuivi par Jézabel. Et il y en a plein. Et ces personnes ont vécu tant de souffrances parce qu'ils ont pris position pour le Seigneur. Mais dans l'adversité, ils ont patienté. Ils ont persévéré en s'appuyant sur la parole de Dieu, en s'appuyant sur ses promesses. Et Jacques dit, nous pouvons aussi faire de même. Comme eux, restons fidèles au Seigneur. Alors, il est normal de rencontrer de l'opposition lorsqu'on sert le Seigneur, lorsqu'on vit pour lui, lorsqu'on marche à sa suite. C'est normal. Il y a 2 semaines de ça, nous sommes partis avec une équipe du foyer évangélique universitaire de Lille sur les campus pour distribuer des crêpes et avoir des discussions. Et on venait pour les attirer avec une roulette, une roue de la fortune. Alors, c'était des questions dessus, hein. C'était pas pour donner de l'argent. Hein. Et on a eu de très bonnes discussions, les étudiants étaient venus, ils nous ont assaillis littéralement. Et à un moment, un gars de la sécurité incendie vient. Probablement que quelqu'un l'a contacté. Donc on lui a expliqué gentiment nos intentions, ce qu'on faisait. Et malgré tout, il nous a virés. Est-ce qu'on est des méchants? Non, on veut leur parler de Jésus. Mais on veut les aimer simplement aussi. Alors, si j'ai donné ces exemples, Jacques, il nous donne un exemple. Un exemple par excellence de patience dans la souffrance, dans l'Ancien Testament. Et c'est un monsieur qui s'appelle Job. Verset 11. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Alors Job, si vous n'êtes pas familier avec cette personne, Job, c'était un homme aisé. C'était un croyant en Dieu. Il adorait Dieu. Et puis les épreuves le frappent. Il perd tout son bétail, tous ses serviteurs, ses enfants, et lui-même, il tombe malade. Il a déjà des épreuves cruelles. Mais comme si ce n'était pas suffisant, sa femme vient et lui demande de renier sa foi. Et comme si ce n'était pas suffisant, ses amis viennent pour débattre avec lui, l'accusant tour à tour, lui reprochant des torts tour à tour. Mais il n'a rien lâché. Il n'a rien lâché. Il a continué à persévérer avec la conviction intime que Dieu est bon, fondamentalement plein de miséricorde et de compassion. Il n'a pas douté de la bonté de Dieu et il a persévéré. Et Dieu, il va finalement lui parler, s'adresser à lui. Il reconnaît du coup les torts qui ont été infligés à Job. Il va le défendre face aux accusations qu'on lui porte et il va le bénir, mais de manière décuplée. Alors que Job a tout perdu, il va retrouver la santé, il va retrouver ses richesses, il va avoir une nouvelle famille, il va obtenir une grande descendance et des années de vie encore plus, au point qu'il peut voir encore ses petits-enfants. Et tout cela sont la récompense de Job pour sa fidélité, pour n'avoir jamais douté de la bonté de Dieu. Et maintenant que le tableau sur Job, il est dressé, on comprend beaucoup mieux lorsque Jacques, il dit « Vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. » Jacques fait appel à Job pour rappeler la récompense que Dieu accorde à ses fidèles et aussi le caractère du Seigneur qui est plein de miséricorde et de compassion envers nous. Dieu, il a plein de bonté à l'égard des siens. Il connaît nos misères, nos détresses, nos difficultés, nos épreuves. Il peut pleinement ressentir et partager nos souffrances. Il a connu lui-même les défis de la vie terrestre. Il l'a expérimenté. Et si Job, c'était l'exemple par excellence de la souffrance, de la persévérance, de la patience dans l'Ancien Testament, eh bien Jésus, c'est le modèle par excellence dans l'histoire de l'humanité. Le modèle que nous sommes appelés à imiter, à suivre. Lui, Jésus, il a expérimenté la douleur, l'humiliation, la haine, la trahison, le mépris, les insultes et tellement de choses douloureuses. Et pour finir, il a subi la condamnation. Une condamnation pour sauver des personnes qui ne le méritaient pas. Vous et moi. Nous les humains. Et Dieu, c'est le modèle ultime de patience. Si notre Sauveur, lui, il a tant souffert, s'il a tant souffert, il a montré sa victoire sur le monde, sur Satan, sur le mal, afin de nous donner une espérance et la vie éternelle. À qui le reçoit? Et dans sa patience, il nous invite toujours à recevoir cette vie éternelle. parce que quand il va revenir, ce sera fini. Alors Jacques nous encourage à persévérer avec patience dans l'œuvre du Seigneur, avec nos frères et sœurs, marchant à sa suite, malgré l'adversité. Et Dieu est plein de miséricorde et de compassion envers nous. Et on s'attend à sa justice. J'ai beaucoup aimé le psaume 7, où on voit David qui s'attend à la justice de Dieu. Alors, je vous disais tout à l'heure que nous avons une fille de 3 ans. Une petite fille de 3 ans et puis une deuxième de 1 an. Et la petite fille de 3 ans, elle s'appelle Azalée. Et à chaque fois que je vais partir quelque part, ou je me prépare à partir, à chaque fois, elle crie avec une certaine détresse en venant me voir. Elle me dit « Tu vas où ?» Tu vas où? Et en malgache, on dit dada pour le papa. Tu vas où, dada? Et tu vas revenir, dada? Tu vas revenir? Et ma réponse est toujours, oui, Azalée. Alors, elle adopte un petit sourire. Elle me donne un bisou. Et puis, à tout à l'heure. Elle a entièrement confiance. Elle a entièrement confiance en ma promesse de revenir. Et quand je reviens, cette retrouvaille est pleine de joie. Ça lui donne une telle joie. Et de même, dans Jean 14, Jésus il dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Jésus, il dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Et comment est-ce que je réponds à sa promesse? Il va revenir. Lors d'une invitation à un mariage à Montbéliard, dans la région de Montbéliard, nous avons traversé en famille la Suisse. Et à un moment, nous sommes entrés dans un tunnel. Et les phares allumés, on roule. Et puis à un moment, on se fait la remarque, mais on n'en voit pas le bout. Hein. Au bout de plusieurs minutes, on commençait à se faire des remarques. C'est vraiment long. Mais d'être arrivé jusqu'au bout du tunnel et de voir la lumière du jour, oh, wow, mais quel soulagement, mais quel soulagement. Et dans une très moindre mesure, face aux difficultés, face aux épreuves, face à la vie, on aura cette joie, ce soulagement quand Jésus reviendra. Il va revenir. Jésus va revenir. C'est pourquoi j'aimerais vous inviter à juste prendre un temps de silence et à méditer sur cette vérité que Jésus va revenir. Et je vais prier.